19h21 sur Inter. Voici le téléphone sonne Europe en direct de Strasbourg avec vous, Stéphane Leneuve. Bonsoir.
Bonsoir.
France Inter, le 18-20.
Le 29 mai 2005, les Français, par voie de référendum, disaient non au traité instituant une constitution européenne. Ce jour-là, les électeurs lançaient un avertissement à l'Europe, mais aussi aux partis politiques. L'Europe qu'on leur proposait ne leur convenait pas. Bilan des courses, d'énormes frustrations, rancunes vis-à-vis de cette Europe perçue comme trop éloignée, qui ne se préoccupe pas de leurs inquiétudes, qui donne l'impression de ne pas les écouter. Et 15 ans plus tard, eh bien voilà qu'Emmanuel Macron propose à nouveau aux Français de les consulter sur l'Europe avec les consultations citoyennes lancées il y a un mois. Objectif, refonder l'Europe par le dialogue. Certains trouvent la ficelle un peu grosse, voient dans cette opération une opération de communication et de promotion à un an des européennes. Il n'en demeure que les consultations citoyennes sont lancées. Alors comment ça marche? Cette initiative va-t-elle permettre de remettre les citoyens au cœur de l'Europe? Va-t-on réellement tenir compte de leur avis pour refonder cette Europe si distante? Comment comptez-vous y participer? Posez toutes vos questions jusqu'à 20h et comme tous les mois, c'est le téléphone sonne Europe en direct du Parlement européen sur France Inter.
Fabienne Synthès, le téléphone sonne.
Au 01 45 24 7000, nous retrouvons Alain, vous nous appelez de l'Oise. Bonsoir Alain, on vous écoute.
Oui, bonsoir. La question que je pose, c'est que effectivement en 2005, les Françaises et les Français, il n'y a que deux pays d'ailleurs qui ont voté, qui ont eu un référendum, les Françaises et les Français se sont prononcés contre l'Europe, contre cette Europe. Pas contre l'Europe, contre cette Europe. Or aujourd'hui, force est de constater que la politique européenne amène à l'extrême droite en Europe. Et on le voit en Autriche, on le voit en Allemagne, on le voit en Italie, on le voit peut-être un peu moins en France, quoique. Et on le voit par exemple, alors c'est autre chose, avec l'Angleterre qui se retire de l'Europe. Donc cette question que je pose, c'est est-ce que nos élus européens ont pris conscience que les peuples souhaitent avoir une autre Europe, une Europe sociale, une Europe humaine, ce qui n'est pas le cas. Voilà.
Merci Alain pour répondre à vos questions. Nathalie Loiseau, bonsoir Alain.
Bonsoir.
Ministre des Affaires européennes. Et Pascal Durand, député Europe Écologie Les Verts, bonsoir.
Bonsoir.
Et membre du Conseil d'orientation des consultations citoyennes. Alain de l'Oise pose une vraie question aujourd'hui. On l'a vu avec ce qui se passe en Italie, avec ce qui se passe un petit peu dans tous les pays, même en France. La montée des nationalismes, des populismes pour une autre Europe. Nathalie Loiseau, est-ce que c'est aujourd'hui un échec de l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui?
La montée des populismes, c'est un problème mondial. Ça dépasse largement l'Europe, mais ça touche aussi l'Europe. Et il n'y a plus d'exception, l'auditeur l'a dit, en Allemagne aussi. On voit aujourd'hui une extrême droite fortement présente au Bundestag. C'est une alarme. C'est quelque chose qu'il faut que nous entendions. Qu'est-ce qui fait que la manière dont les affaires publiques sont conduites n'est pas comprise ou n'est pas appréciée par les populations? On ne peut pas continuer, s'agissant du projet européen, à tourner le dos au peuple. On ne peut pas, face aux enjeux qui sont devant nous, prendre des décisions fortes sur l'Europe sans avoir écouté les populations d'abord. C'est l'idée de ces consultations citoyennes. Je relève aussi, dans ce que notre auditeur vient de dire, cette envie d'Europe sociale. C'est très vrai, en tout cas en France. J'ai participé à plus d'une vingtaine de consultations citoyennes depuis un mois. C'est quelque chose qui revient de manière très régulière. C'est d'ailleurs quelque chose qui aujourd'hui a trouvé première victoire, un premier succès au Parlement européen où nous sommes, puisqu'on a enfin réformé le régime des travailleurs détachés. Pour la première fois dans l'Europe, on a eu une ambition sociale vers le haut. On s'est préoccupé d'améliorer la situation des travailleurs dans l'ensemble de l'Union européenne. Évidemment, il faut faire beaucoup plus.
La question d'Alain rejoint effectivement la philosophie des consultations citoyennes, c'est-à-dire, ça fait 15 ans, je le disais dans le préambule, qu'on n'a pas consulté les Français sur l'Europe. C'est un vrai besoin aujourd'hui. Pascal Durand, vous ne partagez pas, vous n'êtes pas du même bord politique que Nathalie Loiseau, mais vous avez décidé de participer à ces consultations dans ce conseil d'orientation. Pour quelle raison ?
Ben clairement, avec Nathalie Loiseau, on partage le fait de considérer que l'Europe est un espace démocratique absolument nécessaire pour résoudre les problématiques qui se posent maintenant. Et, pardonnez-moi, en fait, la question que pose Alain est une vraie question. Le fait que l'Europe est perçue, à tort ou à raison pour un certain nombre de sujets, est perçue comme étant très éloignée des citoyennes et des citoyens, plus en mesure de répondre aux angoisses, aux craintes et à la situation qui se pose, fait que nous devons, à ce moment-là, essayer de recréer ce lien, cette dynamique entre l'Europe et l'ensemble des citoyens européens. Et pour un pro-européen comme moi, il me paraissait évident que notre place était aux côtés de ces conventions citoyennes qui ont vocation, et que nous portions d'ailleurs, on l'avait porté dans la précédente mandature, le fait d'aller vers des conventions citoyennes, le fait de pouvoir dialoguer à nouveau avec la société. Et moi je pense qu'effectivement, la question d'Alain, c'est est-ce qu'un certain nombre de gens au sein de la Commission ou du Conseil européen ont pris conscience de ce désamour ? Je crois que la réponse est malheureusement non. Et moi j'avais une de mes premières interventions face à M. Juncker, ça avait été de lui dire « faites attention ». Ne soyez pas les fossoyeurs de l'Europe en voulant, j'allais dire, défendre une logique qui n'est plus comprise, qui n'est pas entendue par l'ensemble des citoyens. Donc on a un moment très très particulier, l'Europe est en danger, il faut dialoguer, il faut discuter, il faut essayer de trouver les bonnes réponses.
Nathalie Loiseau, avant qu'on retourne au standard, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs ce soir qui nous appellent, on peut rappeler le principe de fonctionnement de ces consultations citoyennes, parce que pour l'instant on reste un petit peu dans la nébule, ça vient de démarrer, ça a été lancé officiellement il y a un mois par le président Macron. Concrètement, comment ça fonctionne ?
Alors concrètement, ça se passe dans 27 États membres de l'Union européenne, tout le monde sauf le Royaume-Uni, puisque naturellement, il n'est pas concerné par l'avenir de l'Union européenne. Ça se déroule par des débats partout à travers les territoires, avec un souci de faire venir, d'attirer la plus grande diversité possible de public, en origine géographique, en origine socio-professionnelle, en tranche d'âge, et de faire en sorte que la plupart du temps, ces consultations, elles viennent du terrain, des associations, des élus locaux, de chambres de commerce, de chambres des métiers, de lycées professionnels. J'ai participé à plus d'une vingtaine d'entre elles dans des lieux très divers, avec des publics très divers, qui ont aussi des opinions très diverses. Ça n'est pas le gouvernement qui impose un débat, c'est la société civile qui s'en empare. Et au moment où nous parlons, il y a environ 200 initiatives de débat qui ont reçu un label consultation citoyenne, et nous en attendons beaucoup plus. En même temps, partout à travers l'Europe, un questionnaire en ligne a été porté par la Commission européenne. Nous avons voulu là aussi que cette consultation numérique vienne des citoyens pour les citoyens. Nous avons réuni un panel de citoyens européens tirés au hasard qui ont travaillé ensemble pendant plusieurs jours à dresser une liste de questions qu'ils souhaitent voir poser à 450 millions d'Européens. Et le questionnaire en ligne a été porté par la Commission depuis le 9 mai, et il y a déjà plusieurs dizaines de milliers de réponses qui viennent de toute l'Europe.
Alors l'idée, c'est que toutes ces idées, à un moment donné, il va falloir en faire la synthèse. Une fois que cette synthèse sera faite, Pascal Durand, ça devrait normalement être mis sur la table des chefs d'État et de gouvernement à la fin du mois de novembre, qui vont les regarder, qui vont les analyser. Est-ce que sérieusement, on peut penser qu'ils vont les reprendre dans leur politique future pour améliorer le relationnel entre le citoyen et l'Europe, et pour améliorer l'Europe ?
Pascal Durand. Écoutez, c'est une excellente question. J'espère qu'ils vont le faire. C'est-à-dire, j'espère qu'il va y avoir deux phases. La première, c'est que c'est très bien, effectivement, de consulter, de redynamiser le lien avec les citoyens. La deuxième, c'est qui va tirer les conclusions de ces débats. Et moi, ce que je souhaiterais vraiment, c'est qu'on sorte justement de la logique de la pure commission ou simplement le Conseil européen qui arriverait encore une fois en disant « voilà, les solutions, nous les avons, etc. » J'aimerais qu'il y ait une restitution Et donc, ça, j'imagine qu'avec Nathalie Loiseau, on va encore avoir l'occasion de travailler sur cette question-là. Mais j'aimerais qu'il y ait une restitution qui ne fasse pas, j'allais dire, l'impasse sur, par exemple, il va y avoir plein de questions sociales qui vont être traitées dans ces réponses. Moi, j'aimerais bien que les syndicats européens soient associés à la réflexion avant qu'on passe au Conseil. Je voudrais qu'on casse cette logique qui consiste à toujours laisser au Conseil européen la réponse.
C'est-à-dire aux chefs d'État et de gouvernement.
Aux chefs d'État. Et même que la Commission ne soit qu'un élément. Là-dessus, il faut que les corps intermédiaires, et je pense aux syndicats, mais aussi aux ONG, enfin, globalement, à la société civile, il faut qu'elle ait la possibilité d'intervenir et d'agir.
Nathalie Loiseau, et on ira au stand-up avec Christine qui nous appelle de Paris. Nathalie Loiseau.
Alors, je partage le point de vue de Pascal Durand, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai souhaité avoir à mes côtés un conseil d'orientation pour, à chaque étape du processus, faire en sorte qu'il soit d'abord parfaitement transpartisan, que toutes les opinions puissent s'exprimer. Si on veut devenir une consultation citoyenne, il faut s'engager à la pluralité des opinions, il faut s'engager à la transparence dans l'organisation, il faut s'engager à rendre public le compte-rendu du débat. Et puis on travaille en ce moment à la restitution, à la fois sur le plan national, franco-français. De ce point de vue-là, le Conseil économique, social et environnemental souhaite s'impliquer, et ça va dans le sens de ce que propose Pascal Durand, c'est-à-dire les corps intermédiaires qui viennent tirer profit de toutes ces contributions qu'on aura rassemblées. Et également sur le plan européen, il y a un intérêt fort marqué par le Parlement européen, par le Comité économique et social européen aussi. Et à titre national, j'ai approché l'ensemble des organisations syndicales. Presque toutes m'ont dit leur intérêt à organiser des consultations citoyennes et à réfléchir aux résultats de ces consultations.
Au standard 01 45 24 7000, Christine, vous nous appelez de Paris. Bonsoir, on vous écoute.
Bonsoir, merci d'accueillir ma demande. Voilà, j'ai fait m'entendre des mots assez forts, crainte, angoisse, et cette demande des citoyens de base d'être entendus. Alors voilà, je voudrais savoir si à un moment, l'Europe sera assez ferme, forte, courageuse, responsable et surtout indépendante pour arriver à avoir une politique écologique, alors je sais que le mot était battu et rebattu, vraiment bon, responsable et répondant aux souhaits de millions de gens qui, eux, ont l'impression d'être manipulés parce que l'argent, les lobbies, voilà, le glyphosate, et ça traîne et ça traîne, et les néonicotinoïdes, et les abeilles, et ça traîne et ça traîne, et c'est reporté au calendrier grec, et c'est reporté au calendrier grec. On a vraiment l'impression qu'on est mené en barque parce qu'il y a de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent.
Merci,
c'est pas bien.
Oui.
Voilà.
Merci Christine, on a bien senti votre sensibilité écologique. C'est une vraie demande de pouvoir politique, en fait, de renaissance du pouvoir politique européen, Nathalie Loiseau.
Mais la réalité, c'est qu'il n'y a jamais eu autant besoin d'Europe. Que ce soit sur les enjeux écologiques, que ce soit sur les enjeux numériques.
Alors, il n'y a jamais eu autant besoin d'Europe. Et malheureusement ou heureusement, pour les gens qui votent, hein, parce que c'est démocratique, les populismes remontent.
Les populismes remontent, alors pas toujours, pas partout et pas toujours pour les mêmes raisons. Si on pense aux élections italiennes, par exemple, auxquelles on pense beaucoup en ce moment, ce qu'on a constaté, ce qu'ont dit les électeurs italiens, avec des votes assez différents, mais qui étaient des votes de protestation, ils ont protesté contre l'absence d'Europe, contre l'absence de solidarité européenne dans la crise financière, contre l'absence de solidarité européenne dans la crise des migrants. Ils n'ont pas dit qu'ils ne voulaient plus d'Europe, ils ont dit qu'ils auraient voulu plus d'Europe. Et ça, il faut l'entendre. Aujourd'hui, dans les inquiétudes, Christine parlait de la nécessité que l'Europe soit aux avant-postes des enjeux écologiques. L'Europe, aujourd'hui, est en avance sur la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le changement climatique. C'est une bonne chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'endormir sur nos lauriers. Il y a des engagements qui ont été pris. Il faut qu'ils soient encore plus ambitieux et nous poussons dans ce sens. Christine parle des lobbies. Les lobbies existent, ils existent auprès du Parlement européen, ils existent auprès des institutions européennes. Ce que je voudrais quand même en dire, c'est que les institutions européennes ont mis aujourd'hui en place une transparence dans le fonctionnement des lobbies qu'on aimerait parfois trouver dans les États membres. C'est-à-dire qu'on sait qui reçoit qui pour parler de quoi. Moi, je m'applique cette même transparence à moi-même. Mon agenda est public, tout le monde sait qui je rencontre et je peux rendre compte des gens qui viennent me voir. Sur les enjeux type pesticides, glyphosate, néonicotinoïdes, La société civile nous aide à progresser. La société civile aussi s'organise en lobby et c'est une bonne chose. Il y a eu une initiative citoyenne demandant l'interdiction du glyphosate. Ça a permis de ramener la proposition de la commission qui était d'une autorisation de mise sur le marché de 10 ans à 5 ans.
Mais alors là si je peux vous contredire, le Parlement français, le gouvernement, visiblement, n'a pas acté le fait qu'il y a interdiction du glyphosate dans les 3 ans. Bon, ça crée quand même du débat politique en France aujourd'hui. Donc, comment on répond aux citoyens, effectivement, cette initiative citoyenne qui souhaite qu'il y ait interdiction du glyphosate, on va prendre un exemple concret, et finalement, le politique qui répond un petit peu à côté, qui répond pas franchement à la demande.
Non, il y a une volonté politique, il y a un engagement du président, du gouvernement à tout mettre en œuvre pour être capable de sortir du glyphosate dans 3 ans. Simplement, la science, ça ne se décrète pas. Un progrès scientifique, ça ne se décide pas par un article de loi. Ce que nous avons fait, c'est mettre en commun tous les moyens nécessaires pour pouvoir sortir du glyphosate. On sait que pour certaines utilisations, c'est déjà possible. Pour d'autres, ça n'est pas encore le cas. Il y a aussi des utilisateurs qui nous disent ne nous laissez pas tomber au milieu du gué, n'interdisez pas le glyphosate sans nous donner une solution alternative. Eux aussi, on a besoin de les rassurer. Il y a un engagement politique fort. Simplement, se faire plaisir en faisant un article de loi, sur le moment, c'est un effet d'estrade, mais derrière, il faut surtout faire en sorte que cette volonté politique se traduise par des résultats, et la volonté politique est forte.
Pascal Durand.
Évidemment, sur la question du glyphosate, vous pensez bien qu'on ne va pas être d'accord, et qu'au-delà de l'effet d'estrade, c'était surtout un engagement du président de la République, que nous aurions aimé. Qu'il soit tenu dans le cadre de la grande loi qui vient d'être votée sur l'alimentation. Mais moi, je suis là pour parler d'Europe, donc je vais essayer de répondre à la question de Christine, qui est une vraie question. Mais l'exemple du glyphosate démontre que ça n'est pas l'Europe qui est en question, puisque là, on voit que c'est une loi française et que le ministre de l'Agriculture a finalement considéré, pour des raisons qui sont liées évidemment à des pressions extrêmement fortes, notamment de la part de la FNSEA, qu'on ne pouvait pas mettre en œuvre cet engagement. Très bien. Enfin, très bien.
Non, c'est pas tout à j'en fait prends ça que... considéer. Okay. On s'est engagé à le mettre en œuvre, mais ça
très
ne
bien.
Sert à rien.
Ce que je vois, c'est que dans la loi, ok, moi, je comprends bien ce que je sais, mais là, c'est le juriste qui parle, c'est que tant que ça n'est pas dans la loi, ça n'existe pas. Nous sommes dans du droit écrit. Je ne connais pas, moi, d'engagement qui ne soit pas mis en œuvre. Mais bon, c'est la question là. C'est comment, effectivement, on arrive à créer des majorités pour faire en sorte que ces engagements soient tenus, soient respectés, malgré les grandes actions en face. La mobilisation citoyenne, les ONG, le rôle des syndicats, le rôle de tous les corps intermédiaires est évidemment majeur sur ces sujets. Et on l'a bien vu, sur le glyphosate qui a fait bouger, indépendamment de la prise de conscience de certains dirigeants, c'est d'abord et avant tout la société civile, à travers les initiatives citoyennes. On a eu la même question sur l'eau et autres. Donc l'Europe n'est pas un espace en dehors du droit, au contraire, l'essentiel de notre législation, si la France respectait par exemple les termes, les normes en matière d'air, en matière d'eau, on sait très bien que nous n'aurions pas les maladies, voire les décès que nous avons actuellement. Donc l'Europe n'est pas l'élément, j'allais dire, dangereux de ces politiques publiques, au contraire. La seule chose, c'est que effectivement, il y a une énorme résistance dans les instances politiques, il y a une énorme résistance d'un certain nombre d'intérêts privés qui n'ont pas la vocation à ce que les choses changent. Voilà, il faut donc dire les choses très clairement. Lorsque l'on veut porter atteinte à l'agrochimie ou à l'agro-industrie, etc., nous avons en face de nous des gens très puissants, très riches, qui essayent de faire en sorte que ces choses ne puissent pas intervenir.
Nathalie Loiseau, tout à l'heure, vous donniez un exemple. On parlait de l'Italie, de la montée des populismes, de ce gouvernement anti-européen. Et vous parliez du manque de solidarité européenne vis-à-vis des migrants. C'est un manque de solidarité entre les États. On ne peut pas considérer qu'aujourd'hui, il y a un manque de solidarité européenne. Il n'y a vraiment pas eu de solidarité entre les États. C'est ça, le vrai sujet.
Non, le vrai sujet, enfin, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a eu des décisions européennes qui n'ont pas été exécutées. Il y a eu, en 2015, au moment où l'afflux de migrants était particulièrement massif, une décision prise qui consistait à demander, comme c'était prévu dans les textes, aux États par lesquels les migrants arrivaient, c'est-à-dire les États du Sud, pour faire simple, d'être responsables de l'enregistrement des demandeurs d'asile. Mais derrière, il devait y avoir une relocalisation de ces demandeurs d'asile à travers l'Union européenne. Et certains pays, à l'est de l'Europe, ont décidé de ne pas respecter cette décision européenne. Ça a été perçu avec beaucoup de violence par un pays comme l'Italie qui s'est dit qu'on considérait qu'il n'avait qu'à se débrouiller tout seul. Aujourd'hui, on n'a pas encore résolu cette tension entre les pays de première entrée des demandeurs d'asile et des migrants et une partie des pays européens qui ont tendance à considérer que la solidarité, ça vaut pour les sujets qui leur conviennent et pas pour d'autres.
On retourne au standard. Pierre, vous nous appelez, vous êtes sur la Côte d'Azur. On vous écoute, Pierre. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question parce qu'en fin de compte, je m'interroge sur le fait que est-ce que les consultations citoyennes peuvent à terme remplacer les élections ? Parce que globalement, on se rend bien compte que les consultations, on consulte les gens qui sont intéressés par l'idée ou l'idéal européen. On ne va pas demander aujourd'hui aux Italiens s'ils sont... on ne va pas les questionner sur l'Europe puisque les Italiens viennent de choisir avec des élections et que l'Europe leur dit non, vous n'avez pas fait le bon choix. Au même titre que la Grèce avait fait un choix qui ne plaisait pas à l'Europe, on leur a fait comprendre. Au même titre que la France avait voté non en 2005, au même titre que l'Irlande, ils ont revoté. À chaque fois qu'on consulte les populations qui ne sont pas d'accord, qu'ils font des choix différents de ce que veulent l'Europe et ses traités libéraux, à chaque fois, donc à la limite, pour être plus honnête, il faudrait qu'on ne consulte que les gens qui sont pro-européens, puisque quand les anti-européens ou les gens qui ont des doutes sur l'Europe qu'on leur propose font des choix politiques, on ne les accepte pas au niveau européen. Donc c'est peut-être... C'est une solution que de consulter les gens plutôt que de leur laisser le choix de vote, puisqu'on ne respecte pas le vote des populations.
Nathalie Loiseau, la remarque de Pierre est très intéressante. Ça fait 15 ans, enfin, on a l'impression qu'il y a une espèce de gouffre qui se sépare effectivement les Français, ces Français qui ont voté contre, qui ont voté pour à une majorité, une large majorité en 2005, contre une certaine idée de l'Europe. Et ils ont l'impression de ne pas avoir été entendus.
Mais ils ont raison d'être en colère, parce que ce qui s'est passé en 2005, c'est quelque chose qu'il ne faut pas recommencer. C'est d'abord un débat qui s'est passé entre experts sur un sujet sur lequel on a mis toute la sophistication et toute l'intelligence possible. Et puis après, on s'est retourné vers les électeurs en leur disant « Quelle est votre Europe, oui ou non ?» Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de poser la question comme ça. Et les noms l'ont emporté, mais c'était les noms. C'était une variété de noms dont les porte-paroles auraient été bien incapables de dire ce qu'ils proposaient à la place. Et puis, au lieu de prendre le temps d'écouter, d'avoir un dialogue qualitatif sur les politiques européennes, sur les orientations, les priorités, eh bien, on a attendu que ça se passe et puis on a fait le traité de Lisbonne et on l'a ratifié en ayant surtout comme obsession de ne plus interroger les populations. C'est contre ça que nous voulons aller, en prenant ce temps du qualitatif, ce temps sur plusieurs mois, que les personnes s'expriment sur les politiques européennes les plus variées, que les opinions les plus diverses se fassent entendre. Et je rassure notre auditeur, lorsque je participe à des consultations citoyennes, j'entends des opinions très différentes, des gens qui sont favorables au projet européen ou critiques sur la manière dont il est mené, ou même très hostiles ou favorables à une sortie de l'Union européenne. Il y en a. Ils viennent s'exprimer. Et nous, ce que nous demandons à chaque fois, c'est... Dites-nous ce que vous pensez, mais dites-nous surtout ce que vous proposez. Quelle est l'orientation que l'on doit prendre ? Je voudrais quand même revenir une seconde sur les élections italiennes, parce que je ne voudrais pas laisser dire que l'Europe a demandé à l'Italie de changer son gouvernement.
Non, mais il y a quand même des mots qui ont été prononcés, notamment par Bruno Le Maire. C'était un petit peu donneur de leçons, c'est-à-dire c'est à prendre ou à laisser. On ne pourra rien changer, le vote, on passe un petit peu au-dessus. Quoi. C'était un petit
non,
peu ça la philosophie.
Non, c'est certainement pas ni ce que le président de la République, ni ce que moi j'ai été amené à dire. La première chose à respecter, c'est le choix des électeurs italiens, comme ailleurs en Europe. Je n'aimerais pas que quelqu'un vienne dire aux Français ce qu'ils doivent voter. Ce que nous demandons aussi, c'est évidemment que l'Italie respecte ses engagements et respecte les valeurs fondamentales de l'Union européenne. Et il y avait certains propos de campagne qui pouvaient, de ce point de vue-là, inquiéter. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que les partis qui avaient décidé de gouverner ensemble avaient fait campagne sans parler de sortie de l'euro. Et puis, ils ont choisi de former un gouvernement avec notamment un ministre dont le cheval de bataille,
C'est la sortie de l'euro.
Le président de la République italienne a décidé à partir de là qu'il y avait un flou qui s'était créé entre ce qui avait été dit pendant la campagne par les partis qui ont gagné et ce qui allait se passer avec un ministre dont l'objectif c'était sortir l'Italie de l'euro, alors que la campagne électorale ne s'était pas faite sur ce sujet-là. Après, le président de la République italienne, c'est lui qui a pris la décision, c'est lui qui a pris ses responsabilités, ça relève de ses prérogatives institutionnelles. Nous, on constate un respect de la Constitution italienne. On n'a rien d'autre à dire. Si demain, il doit y avoir d'autres élections, ce qui semble être le cas, on respectera évidemment le résultat des élections et on travaillera évidemment avec le gouvernement qui sera sorti de ces élections. Il y aura deux caveats, le respect des engagements pris et le respect des valeurs.
Pascal Durand ?
Je voudrais juste revenir sur la question qui a été posée.
La remarque de Pierre.
Ouais, la remarque de Pierre au départ sur le fait que lorsque les citoyens voulaient critiquer l'Europe, etc., on ne les entendait pas. Je veux dire que c'est juste sur un grand nombre de politiques publiques et notamment sur les politiques austéritaires. Simplement, je voudrais que Pierre n'oublie pas que, par exemple, le gouvernement de M. Tsipras et Syriza ont tout fait pour rester au sein de l'Union européenne parce qu'ils avaient bien compris que les conditions de la solidarité pour que la Grèce n'emprunte plus à 30% sur les marchés, pour que la Grèce ne soit pas contrainte de revenir au drachme et qu'il y ait une déflation, etc., qui fait que là, les retraités qui ont perdu déjà 20 à 30% de leur pouvoir d'achat, et c'est une honte. C'est pas 30% qu'ils auraient perdu sur leur retraite si on revenait au drachme. C'était 100% pour les plus faibles et les plus pauvres d'entre eux. Donc, la question est une vraie question. C'est-à-dire
ce sentiment de ne pas être écouté depuis 15 ans.
Et simplement le fait que l'Europe telle qu'elle fonctionne n'est pas l'attente des citoyens. Mais pour autant, ça n'est pas une lutte systématique contre l'Union européenne ou contre l'Europe. Un peu comme on pouvait être opposé aux politiques publiques mises en œuvre par Nicolas Sarkozy ou par François Hollande, sans pour autant remettre en cause le principe d'une démocratie française qui devait changer. Et en fait, ce qu'il faut bien entendre, c'est que les politiques publiques qui sont mises en Europe, elles resteront ce qu'elles sont, c'est-à-dire pour une grande part la logique chère à Madame Thatcher de There is no alternative, etc. Si on n'agit pas contre, mais on peut parfaitement avoir des majorités qui modifient cela. Et les politiques austéritaires qui ont été soutenues, notamment à l'époque de la commission Barroso, et qui pour une part ont été reprises au départ par la commission Juncker, ne sont pas inscrites dans le marbre et elles peuvent évoluer. Donc c'est ça notre responsabilité. Et oui, nous pouvons transformer et changer l'Europe. Et oui, il faut le faire.
Au standard 01 45 24 7000, on vous écoute Jean-Louis, vous appelez de Paris. Bonsoir.
Bonsoir. Ma question rejoint un peu celle de Pierre, disons. C'est que je suis très sceptique sur l'utilité d'une consultation, dans la mesure où on nous a habitués à ce que quand on demande son avis à la population, on prend le contre-pied. En 2005, il y a eu le référendum sur l'Europe, sur la Constitution européenne. M. Sarkozy nous a imposé à peu près les mêmes conclusions sous le traité de Lisbonne. Notre-Dame-des-Landes, il y a eu une consultation qui a dit oui à l'aéroport. On nous a expliqué qu'ils n'avaient pas compris la question et on a annulé l'opération. Donc, à quoi servira, disons, cette consultation si on n'en tient pas compte de l'opinion des gens ?
Nathalie Loiseau vous répond, Jean-Louis. Gros scepticisme quand même par rapport à ces consultations, par rapport au fait de ce message de dire « Allez, dites-nous ce que vous pensez de l'Europe » et puis finalement, les gens disent « Ça sert à quoi ?»
Ça sert si les gens viennent, participent et si on peut sortir en partie d'un autre fléau qui est celui de l'indifférence. Regardez les élections européennes de 2014, le taux de participation était le plus faible de tous les scrutins en France et c'est vrai partout dans l'Union européenne. Je crois qu'on n'a pas suffisamment expliqué qu'aujourd'hui, comme le disait Pascal Durand, l'Europe, c'est ce qu'on en fait. C'est ce que font les chefs d'État et de gouvernement au niveau du Conseil et c'est ce que fait le Parlement européen qui est co-législateur, donc qui vote les choix faits par l'Union européenne. Alors ne pas aller voter aux élections européennes, c'est perdre toute chance d'orienter le destin de l'Europe là où on a envie qu'il aille. Ne pas participer aux consultations citoyennes, c'est à l'avance considérer qu'on ne sera pas entendu. Moi j'ai envie de vous dire, si 27 États membres de l'Union européenne ont pris cette décision ensemble, ça n'est pas pour faire plaisir à l'un ou l'autre.
Ça a été quand même un peu compliqué de convaincre les autres pays, il faut quand même le reconnaître.
Écoutez, en Europe, c'est toujours compliqué.
Notamment en Allemagne, je crois, c'était un peu compliqué.
Non, c'était pas compliqué, ça a pris du retard en Allemagne, parce que le processus politique, il vous a pas échappé qu'il a été un petit peu paralysé pendant quelques mois, mais ça n'a pas été compliqué, pas plus que tout ce qu'on fait dans l'Union européenne, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, c'était une initiative française. Moi, je constate qu'en quelques mois, on a mis tout le monde à bord, et c'est plutôt une satisfaction parce que ça oblige tout un chacun à faire un pari, de voir ce que les citoyens de son pays peuvent dire et qui peut être très différent de ce que disent les dirigeants. On a des choix forts à faire dans les mois qui viennent parce que le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne, parce qu'on va décider sur le prochain budget européen pour 7 ans. Ça veut dire qu'il faut qu'on choisisse des priorités et moi j'encourage tout un chacun à participer à ce choix de priorité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets qui préoccupe les Européens, de la défense aux migrations, en passant par l'écologie ou par le numérique. S'il y a une réponse européenne à apporter, laquelle ? Dites-le et ça sera entendu.
Olivier, au 01 45 24 7000, bonsoir, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Allô, vous m'entendez ?
Oui, bonsoir Olivier, on vous écoute, bonsoir. Vous êtes sur France Inter.
Oui,
vous êtes
moi j'écoute, je suis de Paris, j'écoute votre émission depuis le début, j'entends qu'on a parlé de social, ensuite on a parlé de déficit démocratique avec l'histoire du référendum de 2005. Je pense que, vous voyez, moi j'ai commencé à m'intéresser à l'Europe justement vers ces années-là, vers 2005. J'ai sorti un bouquin qui s'appelle « Tout savoir sur l'Europe » et qui a été traduit ensuite par Michel Rocard, donc quelqu'un de vraiment de pro-européen. Ce que je vois, c'est que aujourd'hui, l'Europe, les dirigeants ne comprennent pas que les citoyens européens doivent se réconcilier avec leur patrimoine. Et quand je parle d'identité européenne, j'ai sorti des articles sur ça, c'est que je crois qu'il y a deux symboles, par exemple. Vous voyez, le premier, c'est les billets en euros. Ce sont des illustrations qui sont très anonymes. Ce qu'il aurait fallu, et c'est encore possible de réparer ça pour réconcilier les citoyens, c'est de mettre des héros transnationaux, c'est-à-dire, je sais pas, moi, ça peut être Pasteur, ça peut être Cervantes, ça peut être Pessoa, etc., Goethe, ce que vous voulez. Ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est pour l'avenir, parce qu'on on parle trop du passé. Le passé, c'est justement, c'est de se dire, bon, il y a eu ce déficit démocratique en 2005, parce que ça, c'est vrai que les Français, notamment, ne l'ont pas bien digéré. Hein. Moi, j'ai voté pour à l'époque, mais beaucoup de gens autour de moi avaient voté contre parce que c'était mal expliqué. Donc aujourd'hui, c'est pas seulement que c'est mal expliqué, c'est que vous n'êtes pas assez offensif. Il faut des mesures concrètes. La mesure sur les billets, c'est une chose, mais ça, c'est un petit truc. Mais ce qu'il faudrait aussi derrière, c'est que déjà le budget de l'Union européenne soit beaucoup plus ambitieux. Et que derrière, il y ait des gens qui sont justement, par exemple, qui sont au RSA, il y aurait une participation de chaque pays, d'accord. Mais il faudrait qu'il y ait une sorte de label européen pour que les gens, ils se disent, ah ouais, mais l'Europe, elle fait quelque chose pour moi. Vous voyez, même symbolique, parce que il y a beaucoup de gens. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont dans le milieu rural et qui pourtant voient parfois qu'il y a eu des aides européennes pour tel projet, mais c'est un panneau comme ça qui disparaît vite, alors que
c'est imperceptible.
C'est imperceptible, exactement. Et en fait, ce que je ne comprends pas, c'est que il n'est pas tiré la leçon, les politiques, de ça. Parce que, alors maintenant, on dit le populisme, et c'est pas fini, parce que la vague populiste, je vais vous dire, elle risque d'être encore plus mauvaise.
Merci Olivier.
Quelques années, mais il faut vraiment que les dirigeants européens
du symbole européen
soit beaucoup plus essentiel. Voilà.
Merci Olivier, le symbole européen, retrouver l'identité européenne, Pascal Durand.
Bien sûr.
Les idées que donnait Olivier sont bonnes d'ailleurs.
Mais bien sûr, mais il,
de la culture,
il a parfaitement raison. Après, il y a l'Europe de la culture, l'Europe de l'éducation, le fait qu'on informe dès la jeunesse, qu'on travaille sur la citoyenneté européenne, qu'on sente et que l'ensemble des citoyens européens sentent qu'ils ont un destin commun, qu'ils partagent quelque chose, et que effectivement l'Europe soit pas simplement vue comme l'adversaire à Bruxelles quand on revient en disant Bruxelles m'a imposé ça et ça, qu'on valorise cet espace, qu'on ait à nouveau une dimension de fierté. Je pense que le symbole est important. Je pense qu'il n'y a pas que le symbole. Mettre en œuvre par exemple une Europe de l'énergie, mettre en œuvre une Europe qui donne des garanties à la jeunesse, des garanties sur le chômage, des garanties sociales et pas simplement, évidemment, sur la question environnementale. Je veux dire, cette Europe-là, une Europe qui existe réellement, qui soit concrète, avec un budget qui soit digne de ce nom. Hein, le budget européen, c'est 1% du PIB à peu près. Le budget fédéral américain, c'est plus de 17%. Donc juste pour avoir une idée du rapport de force. Donc on a un vrai déficit. Donc le symbole, oui. L'Europe de l'éducation, de la culture, oui. D'ailleurs, on voit très bien qu'Erasmus et Erasmus Plus fonctionnent et créent justement ce relationnel. Mais il faut aller au-delà. Il faut valoriser les financements. La France ne valorise pas ce qui vient d'Europe. On ne valorise pas tous les centres de formation qui, en France, sont financés avec des deniers européens.
On le voit sur les affiches, mais c'est pas perceptible, oui, encore, comme le disait Olivier.
Et encore. Mais donc, il y a beaucoup à faire sur ces questions-là.
Nathalie Loiseau.
On a eu trop longtemps l'Europe honteuse. On a eu l'habitude d'avoir des victoires nationales et des échecs européens, de dire il y a des choses qu'on fait parce que Bruxelles nous y force. Ça n'est pas ce que fait ce gouvernement, ce n'est pas ce que fait Emmanuel Macron. D'ailleurs, pour ceux qui disent qu'il faut tenir compte de l'avis des électeurs, je rappelle tout de même que l'an dernier, les Français ont eu le choix entre un candidat résolument ambitieux pour l'Europe, exigeant mais ambitieux, et une candidate anti-européenne. Et les Français ont dit oui à l'Europe. Je demande aussi qu'on respecte ce choix-là. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que l'Europe fait et dont les politiques nationaux, locaux, parfois, s'approprient les mérites, alors que sans l'Europe, ils ne l'auraient pas fait. Hier, j'étais dans la Sarthe et je rencontrais des personnes très éloignées de l'emploi, qui étaient accompagnées dans leur insertion par une association qui faisait un travail magnifique. Cette association me le disait, elle ne pouvait pas exister sans le soutien de l'Union européenne. Il y a des cas innombrables. Les élus locaux, parfois les régions qui gèrent les fonds européens, ont un peu tendance à se mettre en avant et à ne pas avoir l'honnêteté de dire que sans l'Europe, ils ne feraient pas les projets qu'ils sont capables de faire.
Concrètement, Nathalie Loiseau, ça sera ma dernière question. Quand ces consultations citoyennes seront terminées à l'automne, qu'est-ce qui pourrait permettre de rassurer, en fait, entre guillemets, ou plus ou moins ces auditeurs qui nous ont appelés, qui ont un gros scepticisme par rapport à ce que vous faites, par rapport à l'Europe, par rapport à ce qui peut les toucher?
L'engagement qui est pris de se servir de ces restitutions au niveau du Conseil européen, ces restitutions sont publiques. Ça veut dire aussi que tous les partis politiques, sans exception, qui vont concourir aux élections européennes, en auront connaissance. Ils devront donc expliquer, quand ils vont mettre en place leur programme, ce qu'ils retiennent de ce que les populations ont dit, demandé et proposé. Et honnêtement, c'est un processus qui se lance pour la première fois cette année-ci, qui n'est pas une année électorale. Moi, je pense et j'entends beaucoup dans les gens qui participent à ces débats, et j'encourage les auditeurs qui se sont exprimés à tenter leur chance pour voir ce qu'ils en pensent. Il faudra qu'on puisse continuer dans l'avenir, parce qu'il y a une vraie envie que cette conversation entre les peuples et les décideurs européens se poursuive.
Pascal Durand, lors d'une dernière consultation citoyenne qui a eu lieu hier ou avant-hier, j'avais remarqué que des gens, des personnes qui ont participé à ces consultations ont déclaré « on vote pour des inconnus qui travaillent sur on ne sait pas quoi ». Oui. Gros déficit d'information sur l'Europe.
Absolument, d'autant plus que je répète, les classes politiques, notamment françaises, n'est pas en capacité de valoriser le travail qui s'est fait en Europe. Je pensais à la garantie jeunesse, par exemple, qui a été mise en place dans la précédente mandature, qui n'a pas été valorisée alors qu'elle venait de l'Europe et que la France en a bénéficié. C'est tout à fait juste de dire qu'on se sert beaucoup trop de l'Europe comme un bouc émissaire et pas assez comme d'un levier et d'un espace nécessaire. On ne réglera pas les grandes questions qui se posent, les défis du 21e siècle, dans les frontières nationales et en se repliant sur des identités nationales. Il faut qu'on coopère au niveau du continent. C'est tout le rôle de l'Union européenne.
Ce sera le mot de la fin ici au Parlement européen. Merci pour la réalisation à Fabrice Lègle, assisté d'Amélie Stadelmann. Vous êtes sur France Inter, il est 20h.